franceinter.fr.
Il est 8h32. Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence par un palmarès, celui de Cannes hier soir.
Une belle compétition gâchée par un jury aveugle à côté de la plaque. Palmarès si surréaliste qu'on est soulagé que Sean Penn et Nicole Garcia n'aient rien eu. Palme navrante. N'en jetez plus. Tweet lapidaire hier soir, assassin de la Bible des cinéphiles. Je parle évidemment des cahiers du cinéma. Rien ni personne ne semble devoir échapper à l'effarement de la plupart des critiques ce matin après le palmarès. Seul le soir de Belgique se réjouit d'une soirée marquée par le Talclito, lancé par la réalisatrice de Divine. Éric Neuhoff dans le Figaro conclut lui aussi, le jury s'est encore plus trompé que d'habitude. Le festival aura bientôt 70 ans. S'il continue à ce rythme, lui aussi touchera bientôt sa prime d'invalidité, tel le menuisier de Ken Loach. Allez, c'est fini, deux navets et l'addition. Eh oui, parce que celui qui focalise toutes les déceptions, eh bien c'est lui, cette palme navrante, comme disent les cahiers. Ken Loach et son moi, Daniel Blake, palme d'or. Jean-Marc Lalanne, Désinroc. Parmi les milliers de manifestants sur la croisette, il ne devait pas y avoir plus de 10 personnes pour penser que ce film était le meilleur. Énorme coup de bol pour Ken Loach. Manifestement, la plupart d'entre elles faisaient partie du jury. Un autre monde est possible, même nécessaire, a conclu le cinéaste hier. Mais un film peut-il construire un autre monde sans travailler à penser la possibilité d'un autre cinéma, s'interroge le journaliste. Et si la Nouvelle République ou encore aujourd'hui en France, le Parisien salue ce matin la palme sociale de Cannes ou encore Cannes point levé, c'est assez amusant de constater que ce matin, toute la presse dite de gauche tape comme un sourd contre le dernier Loach, brûlot pépère pour Libération, qui voit dans moi Daniel Blake un pur film de gauche pour spectateurs de droite. Et il faut finalement s'en remettre à la une du Figaro pour lire moi Daniel Blake, un drame social émouvant. Gardez-moi de mes amis, comme dirait l'autre, mes ennemis, je m'en charge.
Dans la presse également ce matin, un autre palmarès, celui des stations essence en situation de pénurie.
Avec des quotidiens régionaux qui pour certains, notamment dans les régions les plus touchées, font de l'infoservice. Ouest France et La Voix du Nord proposent sur leur site une carte interactive sur la distribution de carburant, pompe par pompe. Les automobilistes internautes sont mis à contribution pour l'actualiser. Mathieu Verrier dans La Voix du Nord raconte comment le gouvernement a tout intérêt à éviter le coût de la pompe, à savoir la pénurie généralisée qui s'apparenterait bien vite au coût de la panne. En attendant, les Français se débrouillent. Plan B dans le Nord, B comme Belgique où ce week-end, les automobilistes du Roubaisis et d'Armentières ont opéré une ruée sur l'or noir au pays de Tintin, pour le plus grand plaisir des pompistes belges qui ont fait leur beurre de ce pétrole manquant. Mais ce réflexe de faire des réserves fait grincer quelques dents. Coup de gueule du journaliste de Ouest France, Yann Bessoulet, qui se moque de ce bon vieux pays, la France, farci de tant de donneurs de leçons, dit-il, toujours prêt à prouver à la face du monde qu'il est bien vivant, innovant, imaginatif. La preuve, raconte-t-il, pour faire le plein, l'imagination déborde. On double, on passe en force, on s'engueule, on remplit les jerrycans malgré les restrictions. La machine n'encaisse que 20 euros avec ma carte. Pas grave, j'ai pris celle de ma femme, de mon fils, de ma fille. Ah, ces Français tellement débrouillards, dit-on. Oui, sans doute, grince-t-il, mais surtout à qui il en faut bien peu pour devenir adepte du « chacun pour soi ». Heureusement que ce n'est pas la guerre, conclut-il.
Les Français et la politique, là aussi on parle souvent d'un coup de pompe, et bien ce matin, un démenti.
Vive la politique, s'exclame à sa une La Croix, qui se lance à un an de la présidentielle dans une vaste enquête sur les enjeux de la politique, enquête qui va durer 3 semaines. Alors ce matin, sondage à l'appui, le quotidien affirme que les Français aiment la politique. 60% disent s'y intéresser, une part significative et même prête à s'engager par le biais de pétitions sur Internet, en votant aux primaires, en se déplaçant pour des référendums ou dans une moindre mesure en participant à des mouvements citoyens comme Nuit Debout. Cette passion singulière française, nourrie de tout un imaginaire républicain, baignée de philosophie des Lumières, écrit Céline Roudin dans La Croix, est donc vivace. En revanche, l'enquête est cinglante pour les appareils politiques et leurs représentants qui font l'objet d'un rejet massif. 19% seulement disent être prêts à s'engager dans un parti politique. Aujourd'hui, ils veulent faire confiance à une nouvelle génération de dirigeants politiques, ils veulent plus de démocratie participative et ne croient plus au clivage droite-gauche. Du balai, disent-ils d'une certaine façon, oui, mais pour réinventer la politique. À l'heure où on ne parle que de la montée des populismes en Europe, ce matin encore, en attendant l'issue du duel autrichien, eh bien ce désir de politique est plutôt réjouissant. Dominique Régnier, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette enquête. Vous êtes politologue, mais vous avez aussi été candidat au régional l'an dernier, avec l'étiquette Les Républicains. Est-ce que vous avez senti chez les Français, non pas ce désamour, en tout cas non pas ce désintérêt, mais ce désamour pour la politique ?
Au régional, il y a eu un électeur sur deux qui ne s'est pas dérangé. Mais vous avez raison, c'est très paradoxal parce qu'il y a d'un côté le rejet des partis installés, ce qu'on avait appelé les partis de gouvernement, une grande exaspération à l'égard de ce qui ne change pas. Les mêmes appareils, les mêmes personnes, les mêmes discours, les mêmes promesses non tenues.
Mais vous étiez nouveau et ça n'a pas suffi.
Ça n'a pas suffi. Mais de l'autre côté... Pour dire ce que vous disiez autrement, de l'autre côté, il y a une énorme disponibilité, considérable, et beaucoup, à droite et à gauche. On rencontre des milliers de personnes qui sont très désireuses que les affaires publiques soient prises en charge par tous et que cela se passe autrement. Et c'est ce qui est aujourd'hui, je pense d'ailleurs pas simplement en France, est une question que nous n'arrivons pas à traiter. Donner cette réponse qui est attendue aujourd'hui de manière désormais impatiente par nos concitoyens, continuer à œuvrer ensemble pour les affaires publiques, parce qu'il y a quand même cette espèce de culture démocratique qui est plus ou moins forte ici ou là, mais qui demeure, être capable de montrer que cela change. Voilà, c'est le paradoxe d'aujourd'hui. Cela, il n'y a pas de satisfaction, même minimale, de cette attente à l'égard de la politique. On ne rejette pas la politique, on rejette la manière dont elle est faite. Et en effet, dans mon cas, vous avez raison, ça n'a pas suffi.
On termine, Hélène, par des brèves de l'étranger et un système ripoux.
Oui, l'autre éventuel coup de semonce à l'Europe, en dehors de la présidentielle autrichienne, donc c'est le référendum au Royaume-Uni, Brexit or not Brexit, dans un mois, pile poil. Le journal L'Opinion raconte comment les entreprises britanniques favorables au maintien dans l'Union européenne ont du mal à faire campagne. D'abord parce que, comme chez nous, elles ne sont pas forcément vues avec bienveillance. Et puis, leurs arguments sont parfois contre-productifs. Un exemple, l'ancien grand patron de Marks & Spencer a notamment admis qu'en cas de Brexit, et donc de main-d'œuvre en raison de la fin de la liberté de mouvement, eh bien, les salaires pourraient augmenter, a-t-il dit, ce qui ne serait pas forcément une bonne chose. Autant vous dire que les pro-Brexit se sont évidemment bruyamment réjouis. Pas facile donc de réconcilier l'Europe avec le peuple avec de tels arguments. Et pendant ce temps-là, silence, Erdogan tue la démocratie turque, s'alarme l'humanité à sa une. Alors que 70 chefs d'État et de gouvernement défilent aujourd'hui même sur le tapis rouge d'Istanbul pour assister au premier sommet humanitaire mondial, la Turquie est le théâtre d'une des pires régressions démocratiques de son histoire moderne, insiste le quotidien communiste. Et puis, enfin, les révélations de Libération ce matin, l'ancien patron des stups français aurait organisé pendant des années l'un des plus gros trafics de cannabis d'Europe, en couvrant un indique d'envergure. Alors, faille d'un homme ou trafic d'État, s'interroge ce matin Libération, et nous avec.
Merci, c'était Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter.